le 16. Culture.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, on a au bout du fil Marie-Ève Harel-Michon alias Beta pour parler de son album qui est sorti le 30 septembre dernier, Roche humaine. Salut Marie-Ève, ça va bien?
Salut, ça va bien toi?
Oui, ça va super bien, merci. Écoute, avant de parler de l'album, moi, c'est ton nom d'artiste qui m'a sauté au visage. Ça me disait vaguement quelque chose, là, puis quand j'ai vu que c'était inspiré là, d'un des personnages dans le cycle de fondation de Asimov, moi, je suis un grand fan de science-fiction, je suis vraiment curieux, en fait, de t'entendre sur pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom-là d'artiste?
En fait, Beta, elle apparaît, moi, je le prononce Beta, je sais que ça devrait être Beta. J'ai lu ça quand j'étais ado, fait que je le prononçais mal, puis c'est resté. Mais bon, fait que elle apparaît dans le deuxième tome de Fondation, qui est vraiment une. Ça m'a vraiment marqué. J'ai pas fini la série, je sais pas pourquoi. Je suis très lente à lire de la fiction. C'est ça. Puis là, j'étudie en philo, puis j'ai pas le temps de lire autre chose que les choses que j'ai à lire. Mais bref, c'est pour dire qu'elle apparaît dans le deuxième tome, puis. C'est un vieux livre, ça a été écrit fin des années 50-60, à moins que je me trompe. Puis c'est un personnage féminin quand même vraiment intéressant. Pour moi, à cette époque-là, quand je l'ai lu, on était peut-être en... J'étais ado, le fait que 2010-2011, pour moi, c'était fascinant d'avoir un personnage féminin comme ça qui résout vraiment toute la patente, là, tout le problème, la problématique de cette tombe-là, je dirais rien. C'est Beta qui règle ça, puis elle est vraiment hot, elle a un vaisseau spatial, etc. Moi, qui suis une très grande fan de Star Wars, mettons. Pour moi, de rencontrer Beta, si on peut dire, dans Fondation, c'était comme de rencontrer Leia, mais tu sais, avec l'importance que Luke a dans Star Wars. C'est pas que Leia est pas importante, mais c'est sûr que Luke a quand même quelques... Il fait quand même quelques affaires pas mal hot, genre être un Jedi, mettons, que Leia aussi, elle l'est, mais que ses pouvoirs sont pas...
Il fallait attendre 60 ans avant de les voir, finalement, ses pouvoirs dans la dernière trilogie.
Oui, je sais, c'est un petit peu spécial, ça parle là, mais il y a plein de théories là, sur les pouvoirs de Leia... sur la raison de ce qui se passe là-dedans. Bref, c'est ça pour dire que pour moi, c'était un personnage qui m'a vraiment marqué, puis le monde m'appelait comme ça des fois en joke, puis j'aimais tellement ça me faire appeler de même. C'était comme gratifiant, fait que je me suis dit pourquoi pas avoir un projet, puis que ce soit mon pseudonyme.
C'est une belle histoire.
Puis dans ton album, Roche humaine, on y retrouve plusieurs thématiques, dont le rêve et la fuite. Quelle thématique t'as voulu mettre vraiment de l'avant dans cet album-là?
Ben, je dirais que dans le rêve et la fuite, le rêve est un moyen de fuir un peu, puis ça a été un moyen pour moi de fuir, admettons, de réveiller le matin puis de rester dans mes rêves plutôt que d'affronter la réalité. Et quand je dis rêve, je parle vraiment de rêve qu'on rêve la nuit, là, pas nécessairement des ambitions ou des etc. Puis c'est vraiment la thématique de l'album. Je dirais que il y a des pièces que c'est plus des chansons qui racontent un élément déclencheur, donc quelque chose qui est arrivé puis qui va dans mes rêves, qui se manifeste dans mes rêves. Puis il y a des pièces qui racontent plus un peu l'expérience de se réveiller d'un rêve qui est vraiment marquant puis qui te marque là, pendant toute la journée. Fait qu'il y a du pré-rêve, il y a du post-rêve, il y a du pendant le rêve. Il y a vraiment il y a des pièces qui parlent un peu de refouler les rêves. Bref, fait que c'est vraiment comme autour de ça, la thématique, puis c'est... Je dirais que la ligne du temps est jamais vraiment pareille selon la pièce.
Puis c'est ça, en fait, avant, tu as fait partie d'un groupe qui s'appelait Perdrix. Tu chantais là-dedans avec ta sœur Mélanie. T'as donc créé deux albums au sein de ce groupe-là. Un franco, un anglo. Mais là, solo, comment ça a été d'écrire un album solo franco? Franco-solo.
J'ai jamais fait d'album anglophone à proprement dit. J'ai participé à travailler avec Renaud McCarthy, que lui, c'est un artiste anglophone. Fait que c'est ça. Fait que de mon cru, j'ai jamais composé de musique anglophone.
OK.
Mais je dirais que le franco, pour moi, c'est ce que je fais depuis. Je n'ai composé que de la musique. Je faisais de la musique anglo, mettons, quand j'étais ado. Là. On passe tout par là. Puis il y en a qui restent parce qu'ils sont bons pour écrire en anglais, puis c'est qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ça a été une bonne chose que j'écrive en français, mais pour moi, c'est ma façon de m'exprimer. c'est une langue qui est extrêmement difficile. Je dis pas ça en termes pour la dévaloriser. Je dis ça dans le sens que pour moi, c'est un beau défi d'écrire en français. Puis je pense que d'accepter de me décomplexer un peu puis d'écrire de la même manière un peu que j'écris, mettons, dans mes journaux quand je fais des écritures automatiques ou etc., c'est quelque chose qui m'a aidé à avoir du fun avec cette langue-là. Parce que c'est sûr que dans Perdri, c'était Mélanie qui était la principale parolière. Mmh. Puis j'avais moins à me soucier de ça. Donc oui, c'est ça. C'est mon principal véhicule, si on peut dire, de création de francophone.
Ben justement, pour faire un peu de pouce là-dessus, je serais curieux de t'entendre un peu sur tes influences. Dans l'album, on entend des sonorités un peu indie-pop, un peu alternatives, là, mais je serais curieux de t'entendre un peu là, sur les artistes qui t'inspirent, soit généralement ou soit pour la création de cet album-là en particulier.
Je te dirais que je me suis mis dans le compte Spotify il n'y a pas longtemps, puis c'est arrivé quand même tard, là. J'avais de la misère avec Spotify au début pour des raisons plus politiques, mais j'ai fini par me faire un compte, puis je veux pas, je me suis fait lancer de la musique d'artistes, principalement anglophones de mon âge, là, tu sais, du monde comme Madison Cunningham, Samia, qu'elle s'appelle, Laura Marling, qui elle est en Angleterre, tout ça, puis ces femmes-là m'ont vraiment marqué, donc un indie qui va vers le folk, qui va vers le pop, puis qui est toujours avec vraiment comme de la création au niveau de la créativité au niveau de la production. Ça m'a inspiré beaucoup. Puis je dirais qu'au Québec, il y a des bijoux aussi. Là. Puis je suis très inspirée par les gens vraiment proches de moi. Donc, Jeanne Côté, avec qui je chante des fois, qui est a fait la chanson. C'est magnifique ce qu'a fait Renaud Mécartier, avec qui je joue depuis que j'ai 17 ans. M'inspire beaucoup dans sa façon d'écrire. Mélanie m'a aidé dans mes textes. Je dirais que les gens proches, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, là.
Ah, mais c'est très intéressant. Tu as eu ton lancement hier de l'album Ouvert Bouteille. Comment ça s'est passé? Est-ce que les gens étaient au rendez-vous? Est-ce que la réponse était bonne envers l'album?
Ben oui, ben c'est sûr, lancer un album de façon indépendante, hein, ça a ses défis. Je dirais que c'est un milieu qui fonctionne beaucoup avec la publicité, puis la publicité, ben c'est payant.
Ouais.
Plus le budget est petit, plus c'est dur de rejoindre un maximum de personnes. J'ai été vraiment chanceuse d'avoir une entrevue à RSTRA, toujours la culture,
okay,
avec Émilie Perrault à Radio-Can. C'était cool, il y a eu plein de bons éléments. Je suis surtout contente de me faire poser des questions vraiment sincères sur la démarche. Pour moi, c'est pas vraiment la quantité de couverture qui est importante, mais la qualité. Je trouve qu'à date, tout le monde qui me parle de l'album, qui me pose des questions sur l'album, ou les gens qui étaient présents hier, tous des gens qui ont l'air vraiment touchés par la thématique de l'album, puis qui ont l'air vraiment intéressés aussi. J'ai eu des discussions tellement intéressantes. C'est juste le fun de jaser de l'album avec le monde, d'entendre les idées que les gens ont, que les gens sont stimulés un peu par la thématique de l'album. Ça me touche beaucoup. Donc, je dirais que je suis extrêmement satisfaite par la qualité des conversations puis des échanges que j'ai eus autour de cette sortie-là. Franchement, j'ai vu des épiphanies, de multiples épiphanies philosophiques et émotionnelles depuis la sortie de cet album-là, dont hier, où j'ai eu des gens qui m'ont dit des choses tellement intéressantes sur la performance puis sur la transmission de la poésie par la musique. Là, c'est fou, là, les gens sont tellement intéressants. C'est vraiment fun de parler avec le monde.
Ah, c'est génial. Qu'est-ce qui t'attend là pour la suite? Est-ce que tu vas te reposer de ton été? Je ne sais pas à quoi ça ressemblait ton été si tu avais beaucoup de spectacles, comme la plupart des artistes à qui on parle ces temps-ci. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois, justement?
C'est sûr que je fais un peu le pire, c'est-à-dire que j'accompagne d'autres artistes.
OK.
Puis ça aussi, ça qui est tout le temps là. Pour Baita, c'est les inscriptions Francouvertes, fait que j'ai jamais fait au Francouvertes, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que je vais être là au Francouvertes en l'hiver, je ne sais pas, il va falloir que je sois prise ou pas. Fait que je compte faire ça, je compte rentrer en création quand même très, très bientôt, pour être bien honnête. J'aime ça créer, c'est ma partie préférée, puis j'ai déjà des chansons qui sont en préparation.
OK.
Donc, je pense que je vais rentrer ça rapidement là-dedans. Puis, approcher des gens pour essayer de me faire un été de spectacle, ça serait cool là, de faire rouler le show de Roche Humaine. Mais pour ça, il faut que que je m'entoure puis que je mette la main à la pâte. Fait que je dirais, ce qui m'attend, c'est continuer à travailler.
Ouais, t'auras pas le temps de finir le cycle de fondation, malheureusement. Pour une autre fois. En terminant, Marie-Ève, nous, on va aller écouter Phrase fausse qui se trouve sur justement ton album. Là, peux-tu nous la présenter en terminant?
OK. Faire ce cours, Phrase fausse, c'était quelque chose que j'avais vu dans mon cours de philo du langage. Le paradoxe de la phrase fausse, c'est ce qui est vrai, étant donné que la phrase est fausse, bref. Puis ça me faisait penser aux rêves, justement, que les rêves qui sont censés être faux, mais qui des fois nous révèlent des choses qui sont plus vraies que la réalité. Mais en même temps, en étant assez pessimiste, je me disais, peut-être que ça ne s'applique pas à moi, peut-être que moi, je suis remplie d'illusions puis que je rêve juste à des choses fausses. Donc, à ce moment-là, cette pièce-là, le refrain, c'est « Qu'est-ce qui me fait rêver, des phrases vraies ou des phrases fausses? » Fait que c'est comme une espèce de mélange entre ma vie comme étudiante en philo puis ma vie comme médecine, ainsi que ma vie sentimentale, si on peut dire.
Ah, très intéressant. Marie-Ève, je te remercie beaucoup. Baïta, en fait, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous autres.